Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Je suis ravie de partager avec vous encore aujourd'hui et je rends grâce à Dieu qu'il me permette encore une fois de partager sa parole et que ce partage soit sanctifié par le nom de Jésus-Christ et que sa grâce soit sur chaque personne qui écoutera ce message. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors aujourd'hui, on va évoquer un sujet qui nous concerne tous. Ce sont les épreuves. Le titre, c'est Que produit l'épreuve? Alors, ce qu'on va essayer de savoir, c'est quel est notre gain à persévérer dans les épreuves, comme nous le demande le Seigneur, en fait, dans sa parole. Et qu'est-ce que les épreuves produisent en nous et dans notre vie? Alors, on va essayer d'aborder ça aujourd'hui au regard de ce que nous dit notre Père Céleste dans sa parole. Alors, pour répondre assez directement à que produisent les épreuves, on va directement dans 2 Corinthiens 4 au verset 17. 2 Corinthiens 4, verset 17. Il est écrit, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Les grands combattants de Dieu, dont les récits nous sont racontés dans la Bible, n'ont sans aucun doute jamais regardé aux choses visibles qu'ils vivaient, ni à leurs circonstances. Parce que sinon, ils n'auraient jamais affronté toutes les épreuves par lesquelles ils sont passés. Ils n'auraient jamais continué à servir Dieu fidèlement jusqu'à la fin. Alors pourquoi nous, on a tant de difficultés à tenir ferme, tant de difficultés à ne jamais nous écarter ou à rester fidèles? Ben, vous savez, en fait, la Bible a annoncé un temps d'apostasie avant le retour du Seigneur Jésus. Et nous y sommes bel et bien. Voilà, donc la Bible nous dit que nous passerons par des temps difficiles. Et lorsque les textes ont été écrits, Jésus disait déjà que les jours étaient mauvais. Et il voulait nous prévenir que cela n'allait pas s'arranger tant qu'il ne serait pas revenu une seconde fois. En fait, sa première venue marquait le début d'une grande bataille spirituelle entre le bien et le mal. Jésus savait que l'affrontement allait être éprouvant pour ses enfants et il nous le rappelle encore dans chaque ligne que nous lisons dans le Nouveau Testament. Luc 13, verset 24 nous dit: Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Alors les épreuves sont la porte étroite, justement. Il nous faut passer par là parce que tant que nous sommes sur terre, notre chair est soumise au royaume du péché. Mais la bonne nouvelle figure également dans ce Nouveau Testament. Et nous devons nous accrocher aux promesses que Dieu nous a faites à travers ses Écritures. Parce que nous l'avons lu précédemment, au tout début, nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux choses que personne ne peut voir. Car elles sont éternelles et ne font pas partie de ce royaume de péché. Ce que nous devons regarder, ce sont les choses d'en haut. La Bible nous dit bien de s'attacher aux choses d'en haut. Voilà, les choses du royaume, les choses importantes, les choses non périssables. Parce que tout ce qu'on trouve dans ce monde-là va passer un jour. La Bible nous dit que la seule chose qui ne passera pas, c'est la parole. Voilà. Alors nous avons ce privilège de pouvoir nous retrouver dans la présence de notre roi quand rien ne va ou que nous sommes fatigués ou accablés. La présence de notre puissant Seigneur nous donne de la hauteur afin d'affronter les épreuves vues d'en haut et non frontalement. Nous devons regarder en face de nos yeux la vision de Jésus qui a surmonté bien pire que nous et qu'il est sorti victorieux sur toute chose. Donc si nous nous plaçons à ses côtés, comme l'a fait David, un de ses meilleurs combattants, et que justement nous combattons au nom de notre Dieu, nous pouvons affronter les épreuves en paix, parce que nous savons que nous avons la victoire, la même que celle que notre Seigneur a acquise sur le monde. Arrêtons de combattre en notre nom, propre nom. Voilà, nous, la Bible nous dit que nous ne nous appartenons plus, pardon. Alors, vous, mes frères et sœurs, vous appartenez bien à Dieu, oui ou non? Alors, si c'est le cas, cette parole est pour vous. 1 Corinthiens 6, 20 vous dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Voilà, vous appartenez à Dieu. Donc vous ne pouvez plus combattre en votre nom. Voilà, donc soyons fidèles à lire assidûment les Écritures parce que c'est dedans que nous trouverons les premiers encouragements pour affronter les épreuves. Paul nous rappelle dans Galates 2 au verset 20, pardon, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Satan veut nous faire croire que les épreuves sont une calamité. Mais Dieu, lui, voit les épreuves comme une possibilité de démontrer sa puissance victorieuse à ses enfants. Il voit la possibilité de nous montrer que sa puissance vit en nous et que nous pouvons y avoir accès. Il veut nous démontrer quelle vie nous devons mener au travers de cette puissance. Alors c'est pourquoi nous devons absolument changer notre vision sur ce sujet et commencer à percevoir les épreuves comme un gain et non comme un boulet à traîner, puisque la solution et la victoire sont en nous. Si Jésus vit en nous et si nous le laissons agir comme il se doit. Alors si vous acceptez Christ, vous acceptez qu'il emménage chez vous. Mais surtout, ne croyez pas que vous n'aurez plus de problème en accueillant le plus grand ennemi de celui qui possédait votre vie auparavant. Alors, je m'explique, avant d'accepter de suivre le Seigneur, votre vie était dans les mains du diable. Parce que celui qui ne travaille pas pour Dieu et n'assemble pas pour lui divise, nous dit la Bible. Matthieu 12 au verset 30, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Alors, sachez qu'en accueillant Jésus dans votre vie, vous aurez plus d'attaques, plus de problèmes, mais vous aurez aussi, dans le même temps, la solution à toutes ces attaques et à tous vos problèmes. Parce que Jésus a été remis, à Jésus, pardon, a été remis toute autorité. C'est ce que nous dit Matthieu 28 au 18. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, dit Jésus. Alors, mes frères et sœurs, considérez la grâce qui vous est faite de servir la plus grande puissance qui existe et de souffrir pour elle, de souffrir pour celui qui détient cette puissance. Que votre intelligence soit renouvelée et que vous puissiez aimer celui qui a souffert pour vous et garder à l'esprit à chaque instant que toutes les souffrances par lesquelles vous pourrez passer dans votre vie ne seront jamais aussi grandes que celles par lesquelles Jésus est passé, par amour pour vous en donnant sa vie pour vous. Philippiens 1 au verset 29 nous dit, et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Vous devez choisir de placer votre foi en Dieu et non pas en vous-même. Et je vous assure que vous verrez la gloire de Dieu au-delà des épreuves. Alors, pour revenir à notre sujet précisément, que produisent les épreuves? Donc, hormis un poids de gloire éternelle, hein, comme on a pu le lire au début. Mais il y a un verset qui est clair, c'est dans Jacques au chapitre 1. Il y a même deux versets, parce que c'est du verset 2 au verset 4. Trois versets, pardon. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Et oui, sans épreuve, pas de patience, car toute chose que nous attendons d'avoir et que nous obtenons après un plus ou moins long temps d'attente, ça dépend, nous l'obtenons avec victoire et honneur. Alors, moi, j'irai encore plus loin dans ce verset et je dirais lorsque nous patientons aux côtés de Jésus dans les épreuves, nous les traversons sans une égratignure déjà. Et ensuite, nous obtenons cette victoire que Dieu nous tend et nous le rendons tellement fier, notre Père, que cela nous ouvre les portes de la perfection à ses yeux. Et à ce moment-là, il vous dit, tu es mon digne fils, tu es ma digne fille. Donc oui, il nous faut passer par les épreuves pour développer notre courage, afin d'être accompli dans la patience et la persévérance. Ce verset dans Jacques chapitre 1er que nous venons de lire nous dit sans faillir en rien. Et pour ne faillir en rien, il faut du courage. Mais c'est facile d'être courageux en fait, quand on y pense et qu'on a conscience qu'on ne risque pas sa vie finalement. Et c'est ce qui se passe quand on combat aux côtés de Jésus. Regardez, vous avez confié votre vie au Seigneur. C'est le Seigneur de la vie éternelle. Et votre vie est désormais cachée en Christ. Donc votre esprit habite déjà dans les lieux célestes et ne peut en aucun cas être atteint par les puissances démoniaques ou sataniques de ce royaume, vu que les deux royaumes ne peuvent pas se rejoindre. Votre esprit, qui a déjà la vie éternelle, si vous avez choisi de suivre Jésus, ne peut pas être atteint. Éventuellement, Satan peut vous atteindre dans votre chair, mais vous savez que vous avez la guérison aussi. Donc, il n'y a rien à craindre en fait. Rappelez-vous de la parabole du vieux Lazare et du riche. Après sa mort, Lazare, qui avait eu une vie pauvre et difficile, était avec Abraham. Tandis que le riche, qui avait vécu une vie sans épreuve et pleine de richesses, eh bien, était en enfer. On peut lire dans ce passage dans Luc chapitre 16, juste lire un petit morceau, donc du verset 19 à 31. Il est écrit, il y avait un homme riche, toujours vêtu d'habits coûteux et raffinés. Sa vie n'était chaque jour que festin et plaisir. Un pauvre nommé Lazare se tenait couché devant le portail de sa villa, le corps couvert de plaies purulentes. Il aurait bien voulu calmer sa faim avec les miettes qui tombaient de la table du riche. Les chiens même venaient lécher ses plaies. Le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut à son tour et on l'enterra. Du séjour des morts, où il souffrait cruellement, il leva les yeux et aperçut très loin Abraham et Lazare à côté de lui. Alors il cria, Abraham, mon père, aie pitié de moi. Envoie donc Lazare qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre horriblement dans ces flammes. Mais Abraham lui répondit, mon fils, souviens-toi de combien de bonnes choses tu as joui pendant ta vie, tandis que Lazare n'a connu que des malheurs. À présent, ici, C'est lui qui est consolé, tandis que toi, tu es dans les tourments. Et le passage qui m'intéresse particulièrement, c'est donc le verset suivant, le verset 26, qui nous dit: De plus, il y a maintenant un immense abîme entre nous et vous. Et même si on le voulait, on ne pourrait ni le franchir, ni aller d'ici vers vous, ni le traverser pour venir de chez vous, ici. Alors, ne rejetez pas l'épreuve, mes frères et sœurs. Les épreuves sont nécessaires. La preuve, hein, bon, ben là, on n'espère pas en avoir autant que Lazare a pu en connaître. Mais la Bible nous dit bien que celui qui sera passé par le feu sera bien plus pur que celui qui n'y sera pas passé. Voilà. Et Jésus a dit qu'il était plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille que de rentrer par la porte. Donc, ça veut dire que plus on est à l'aise dans cette vie-là, moins on a d'épreuves et moins on a de difficultés, et moins on est proche du Seigneur et du royaume des cieux. Donc il faut passer par cette porte étroite qui est l'épreuve. Et nous savons qu'on ressort victorieux, hein. Voilà, on connaît le Seigneur, on n'a pas peur de traverser les épreuves avec lui. C'est notre bouclier, en fait, notre Seigneur Jésus. Alors ne rejetons pas l'épreuve et ne priez pas, mes frères et sœurs, pour que le Seigneur vous épargne des épreuves. Parce que ce seront des prières vaines. Nous devons passer par les épreuves pour que notre foi reste active. Parce que nous espérons désormais en Dieu et non plus en ce royaume de perdition. L'épreuve, en fait, produit donc la patience, mais aussi le courage. Elle produit la foi. Elle produit la victoire et la bénédiction par la suite. Alors, pour terminer ce sujet, sachez que la foi se révèle dans les épreuves, mes frères et sœurs. Parce que si nous n'avions aucune montagne devant nous, nous n'aurions pas besoin de Dieu dans notre vie. Et le Seigneur le sait très bien. Les épreuves nous permettent justement de comprendre quel privilège et quel gain nous avons à faire appel à un Seigneur supérieur et victorieux en tout, pour gérer toutes choses ici-bas. Et ces victoires que nous obtenons, de même que notre aptitude à rester en paix durant les combats, ont un poids que nous ne soupçonnons pas sur la vie de ceux qui nous entourent aussi. Non seulement nous faisons la différence et nous nous démarquons de ce monde déchu et condamné, mais en plus, Dieu nous permet d'ouvrir des portes à ceux qui ne le connaissent pas, afin qu'eux aussi accèdent aux mêmes privilèges que nous avons. Voilà le poids de gloire dont il est question et dont nous avons parlé au début. 2 Corinthiens chapitre 1 versets 3 à 4 nous dit: Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Donc l'épreuve éprouve et révèle notre foi. Mais lorsque nous décidons de ne pas intervenir autrement que par la prière et que nous décidons de laisser agir le Seigneur Jésus, cela implique que nous nous mettions en retrait et que nous attendions patiemment en lui faisant confiance. C'est ça la foi en fait. Placer notre foi en lui, c'est savoir que c'est lui qui calme la tempête. C'est lui qui dit au vent: Silence, tais-toi. C'est lui qui mène la barque. C'est lui qui éloigne Satan, ne serait-ce que par sa présence. La Bible nous dit que devant son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Notre intelligence, quand on s'en remet à lui, est renouvelée et nous renouvelons également nos forces auprès de notre Père. Romains 5, verset 3-4 nous dit: bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Alors pour conclure, mes frères et sœurs, l'épreuve produit un poids de gloire éternelle pour votre vie et le royaume du roi des rois. Elle produit la patience, elle produit, on vient de le lire, la persévérance, tandis que celle-ci produit elle-même la victoire. La victoire produisant ensuite l'espérance. L'épreuve produit la foi, le courage et une nouvelle condition accomplie et parfaite de votre esprit. Un nouveau vous, en fait. Alors voyez combien la perfection accompagne la puissance de cette vérité. Et Dieu, qui vous aime au-delà de ce que vous pouvez imaginer, vous offre tout cela si vous voulez bien lui faire confiance. Ésaïe 30 au verset 15, pour terminer, nous dit: c'est dans le repos, pardon, c'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Voilà, mes frères et sœurs, j'espère et je prie que cette vérité soit un pilier inébranlable dans votre marche et que votre course jusqu'au bout n'en soit que plus légère. Soyez richement bénis.